Bienvenue sur le podcast Les Cousins Théologiens.
Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Cousins Théologiens, le podcast de Benjamin et Maxime, ou plutôt de Maxime et Benjamin, ça serait plus poli de faire dans cet ordre-là, parce que je m'appelle Benjamin et je suis avec mon cher cousin Maxime. Salut Maxime.
Bonjour à tous, quelle humilité Benjamin.
T'as vu, c'est extraordinaire. Maxime, content d'être avec toi, enfin pas vraiment avec toi, comme toujours à distance, encore plus avec ce confinement. Mais on a l'espoir un jour de pouvoir retourner les podcasts ensemble. Alors vous allez peut-être entendre durant ce podcast Thomas, le fils de Maxime et Vanessa, qui se fera entendre, qui veut aussi participer au podcast. Mais il est encore un peu jeune pour ça, on a du mal à comprendre ses arguments.
Il essaye sa voix, il essaye.
C'est ça, il prépare sa voix, il prépare ses arguments et puis un jour il nous rejoindra.
Je ne sais pas encore s'il prêche des bonnes choses, mais il le fait de toutes ses forces.
C'est ça, exactement. Content de t'avoir en tout cas, Maxime, pour parler. Alors, je confesse mon ignorance là. C'est quoi le titre du podcast déjà ?
L'autorité des Écritures, quelque chose comme ça ?
Exactement, voilà, très bien. Je savais de quoi on allait parler quand même, vous inquiétez pas, mais je voulais juste être sûr de la formulation exacte. Donc, l'autorité de la Bible. Vous voyez que nous, le podcast Les Cousins Théologiens, c'est pas comme Quorum Deo, on n'a pas le bêtisier à la fin, on a le bêtisier à l'intérieur du podcast.
Tout le long.
Voilà, c'est un peu notre. Tout le long, voilà, c'est un peu notre particularité. Non, alors, on veut parler de l'autorité de la Bible, de la place de l'Écriture dans notre vie chrétienne. Pour nous, en tant que jeunes chrétiens, dans un sens, là encore, c'est un sujet large. C'est pas la première fois qu'on parle de ça, mais c'est surtout en lien avec quelques éléments qui nous sont venus en tête, venus à l'esprit, et auxquels on a été confrontés dans les mois et les semaines passées. Maxime, peut-être pour commencer, pour nous lancer, est-ce que tu pourrais nous définir en quelques mots, nous aider à comprendre quelle est la position protestante classique, historique, conservatrice, on pourrait dire, des chrétiens sur la place de l'Écriture, la place de la Bible dans la vie chrétienne et dans la vie de l'Église.
Mmh. Ouais, récemment, il n'y a pas si longtemps quand même, l'anniversaire de la Réforme, et ça a été l'occasion de rappeler les cinq solas, et un des solas, c'est sola scriptura, l'Écriture seule. Alors c'est un sola qui est parfois mal compris. Seul, ça ne veut pas dire moi avec ma Bible, je comprends tout. Ça veut dire moi avec ma Bible, certes, mais l'église locale, ses prédicateurs sont suffisantes pour vivre ma vie chrétienne. En fait, ce qu'on veut dire par sola scriptura, c'est que l'Écriture est l'autorité suprême, que c'est l'autorité suprême dans l'église, que c'est sur ça que doivent se baser les enseignements de l'église, pas les enseignements de l'individu, mais de l'Église. Et ça ne veut pas dire que la Bible, c'est un livre de recettes, ça ne veut pas dire que c'est un manuel de science, ça ne veut pas dire qu'elle remplit la fonction que tous les autres livres pourraient remplir, mais ça veut dire que la volonté de Dieu nous a été révélée de façon définitive et complète, claire, dans la Bible, que le plan de salut de Dieu pour l'humanité est là, accessible, et que, en un sens, il suffit de le prêcher.
Exactement. Et ça, c'est vraiment comme... c'est un bon résumé, merci Maxime, de ce que la Bible dit elle-même, de ce qu'elle est. La Bible se révèle comme ça, comme étant l'autorité qui vient de Dieu, l'écrit qui vient de Dieu, qui porte l'autorité divine et qui est suffisant pour nous dans notre vie. Et je pense à ce texte qu'on cite souvent dans ces discussions, dans 2 Timothée 3, où Paul il écrit à Timothée, et il dit « Depuis ton enfance, 2 Timothée 3, versets 15 et 16, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. » Donc les écritures sont ce qui permet d'arriver au salut, de comprendre le message du salut et d'être sauvé. Mais ça ne s'arrête pas là, c'est aussi, y a aussi plus de détails qui sont donnés là dans la suite, verset 16. « Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. » Toute l'écriture est inspirée de Dieu, elle est soufflée de la part de Dieu, elle vient de la part de Dieu. Et donc tout ce qu'il y a dans la Bible porte l'autorité de Dieu. C'est pas juste des paroles humaines où on doit évaluer ce qui est vrai, ce qui est faux, faire le tri. Un peu comme voilà, un fruit où il y aurait certains trucs qui seraient pourris et on garde le reste, on enlève ce qui est pourri, on garde le reste. Non, tout vient de Dieu et c'est utile et suffisant pour nous pour qu'on grandisse dans la vie chrétienne, pour qu'on vive notre vie chrétienne. Et effectivement, comme tu le dis, c'est pas... moi, ma Bible tout seul, et je reste là, mais c'est le message de la Bible, enseigné, expliqué, prêché, partagé autour de nous, qui nous aide à grandir. Et ça, je pense, c'est je ne sais pas comment tu réagis à ça, mais c'est quelque chose qu'on peut adhérer à ça dans la théorie, Mais dans la pratique, ce principe peut être remis en cause. Et je pense, par exemple, à ce qu'on... peut-être tu peux partager si tu as d'autres exemples, mais la manière dont on voit, je pense à ça parce que j'ai écrit un article dessus récemment, le ministère parmi les jeunes, voilà, de se dire, mais oui, de quoi est-ce que les jeunes ont besoin? Mais est-ce que dans la pratique, on est vraiment en train d'agir comme si on réalise que toute la croissance dans la vie chrétienne vient de la parole? Toute la croissance dans la vie chrétienne vient de ce message qui vient de Dieu, qui a été mis par écrit et qui est là pour nous aider à grandir, pour nous faire comprendre qui est Dieu. Et je pense qu'il y a une bonne leçon pour nous de nous de dire, mais est-ce que c'est vraiment ça que je crois? Même pour ma vie personnelle, je veux grandir, ok, avec le Seigneur, je veux aller de l'avant, je veux lutter contre le péché. Mais en fait, ça ne se passera pas sans qu'on soit au contact avec la parole de Dieu, sans entendre la voix de Dieu, sans la comprendre. Et comment est-ce qu'on fait ça? Au travers du message de la Bible.
Ou même, je ne sais pas, peut-être que vous avez des rêves pour l'Église. Vous dites, ah, ça serait trop bien si mon Église faisait ça, ça, ça. Et est-ce que vous avez conscience dans tous ces rêves que ce qui fait qu'une Église est en bonne santé, c'est avant tout la parole de Dieu? C'est elle qui, en un certain sens, a créé l'Église. C'est parce que la parole est prêchée et qu'elle régénère des cœurs que l'Église se forme. Et si on rêve pour autre chose, si on rêve d'autre chose pour l'Église qu'une fidèle prédication de la parole de Dieu, la parole vécue, prêchée, partagée, proclamée, finalement on rêve de choses un peu secondaires et peut-être pas si importantes pour l'Église. Un autre passage qui me venait en tête, Benjamin, c'était Romains 9. Alors je ne sais plus exactement le verset, mais au début de Romains 9, Paul parle des Juifs qui ont reçu les oracles de Dieu. Et il parle de l'Ancien Testament comme oracle, ou on pourrait dire traduire parole de Dieu. Donc la Bible elle-même s'attribue ce titre de parole de Dieu.
Ouais, non, exactement. Et c'est là où on voit on voit dans l'Ancien Testament, par exemple, il parle de la part de Dieu, ainsi parle l'Éternel, ça porte l'autorité divine. Mais aussi, on va y revenir dans ce podcast, je pense dans le Nouveau Testament, quand les apôtres écrivent, c'est pas pour donner des conseils de sagesse, voilà, 10 moyens d'améliorer ta vie, 10 conseils pour tel ou tel domaine, mais il y a une autorité qui est là et où on doit réagir. La bonne réaction face à ça pour nous, c'est de croire, de placer notre confiance dans ces paroles qui sont révélées. Et c'est uniquement comme ça que se passera la croissance et qu'on pourra avancer de la bonne manière. Et peut-être un autre jeu auquel je pense, là, et je te laisse ajouter là-dessus par rapport à ça, mais on parle aussi de la suffisance de l'Écriture, donc on l'a abordé, l'Écriture est suffisante, non seulement c'est nécessaire, c'est comme ça qu'on va grandir, on ne peut pas grandir dans la vie chrétienne, on ne peut pas avancer sans la parole de Dieu, sans être connecté à cette parole-là, mais aussi c'est suffisant, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de chercher ailleurs, on n'a pas besoin d'attendre une nouvelle révélation de la part de Dieu. Il n'y a pas quelque chose qui manque, une pièce qui manque pour qu'on puisse être complet dans la vie chrétienne. Et là encore, on peut adhérer à ça en théorie, mais en pratique, on peut vivre comme si on niait ça et vivre en se disant mais je cherche à entendre la voix de Dieu d'une autre manière. Je cours après tel ou tel prédicateur pour entendre quelque chose de frais, quelque chose qui sera vraiment pertinent avec ma vie. Ou alors, par exemple, quand on cherche la grande question de la volonté de Dieu, alors on pourrait faire un épisode complet là-dessus, mais est-ce qu'on réalise que pour connaître la volonté de Dieu pour notre vie, la parole de Dieu est suffisante? Et pas dans le sens que la Bible, c'est une encyclopédie où on va ouvrir la page au hasard et ça va dire « Ah, va faire telle ou telle chose, marie telle ou telle personne, fais tel ou tel métier ». C'est pas le cas, et si on lit la Bible comme ça, on est en train de se tromper. Mais dans le sens où le message que la Bible nous révèle nous donne tout ce qu'on a besoin pour prendre les décisions de notre vie d'une manière qui glorifie Dieu, d'une manière qui honore Dieu. Et on veut réaliser la suffisance de l'Écriture aussi là-dedans. On pourrait faire un épisode peut-être là-dessus, peut-être le prochain épisode on pourrait le faire là-dessus, donc j'en dis pas plus. Mais je sais pas si Maxime c'est quelque chose avec lequel tu es d'accord ou si tu vois d'autres dangers par rapport à ça ou d'autres implications.
Non, c'est bien clair. Alors en effet, comme Benjamin le disait, on peut nuancer toujours dans le sens où tout un tas de conseils qui viennent de nos frères et sœurs ou simplement du bon sens sont utiles pour diriger notre vie, mais elle est pour ce qui est des principes moraux qui doivent guider nos décisions, qui doivent diriger nos vies, il n'y a vraiment pas à aller chercher de nouvelles révélations divines. En tout cas, la volonté de Dieu est donnée, et ça pourrait être frustrant parce qu'on a toujours soif de nouveautés, mais en un sens, ça devrait nous satisfaire parce que ça veut dire qu'on y a accès. C'est bien mieux d'avoir accès à la volonté de Dieu que de toujours rêver d'une nouvelle révélation qui serait jamais complète, quoi.
C'est ça. Et ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin, justement, comme tu le dis, qu'on n'a pas besoin des autres. En fait, si on parle de la volonté de Dieu, on veut savoir quelle est la volonté de Dieu pour notre vie. On ouvre la Bible, on lit la Bible, on voit que c'est une bonne chose de demander des conseils et que ce serait fou de prendre une décision seule et que ce serait insensé et que ce serait pas sage. Et donc, on veut demander des conseils aux autres et on a besoin de ça. Mais c'est plutôt de parler, mais où est-ce qu'on va, vers quoi est-ce qu'on va se tourner quand on veut entendre la voix définitive de Dieu, la voix de Dieu avec autorité, avec puissance? Ce sera au travers de la Bible et du message de la Bible qui est fidèlement expliqué, qui est lu par nous quand on lit la Bible de manière personnelle, mais qui est aussi prêché dans l'Église. Et c'est là aussi, ça montre l'importance de prier pour les frères qui apportent la parole dimanche après dimanche, pour les responsables de nos églises, pour qu'ils enseignent cette parole fidèlement, parce que c'est comme ça qu'on va grandir et c'est comme ça qu'on saura dans quelle direction aller.
Excellent.
Alors je pense qu'il faut qu'on avance. En fait, moi j'ai un bug avec mon logiciel là, avec lequel j'enregistre. Il reste toujours bloqué à 5 minutes, mais je pense pas que ça fait 5 minutes qu'on a commencé.
Non.
Donc on va avancer avec la suite. Et parce qu'on pourrait se dire ici, Maxime, une question qu'on pourrait avoir, ok, mais nous en tant que chrétiens, on est disciples de Jésus, on veut suivre Jésus, on aime Jésus, et merci Seigneur, c'est merveilleux et c'est effectivement vrai. Mais quelqu'un pourrait se dire, ok, moi je suis disciple de Jésus, je ne suis pas disciple d'un livre, je ne suis pas attaché à un écrit, à des dogmes. Et comment est-ce que tu aiderais une personne à comprendre ça, le lien qu'il y a entre Jésus et la Bible?
Je pense qu'une des manières les plus sages de le faire, c'est de le conduire à tout ce qu'on sait de Jésus. Et quand on y pense bien, tout ce qu'on sait de Jésus, on le sait par la Bible, par le témoignage qu'elle nous rend sur lui. À la fois ce que l'Ancien Testament nous annonce sur ce que sera Jésus, c'est les évangiles bien sûr sur ce qu'il a fait, et ensuite les apôtres sur ses enseignements. Et en fait, il faut se rendre compte que Jésus a choisi un témoignage officiel de sa vie, de ce qu'il est et de ce qu'il veut. Il n'a pas laissé les hommes chacun à leur interprétation de qui il était, mais il a choisi une version officielle de qui il était, de ce qu'il a enseigné, et c'est ce qu'on trouve dans la Bible. Le réformateur de Strasbourg, Martin Bucer, pas Martin Luther, de Strasbourg, Martin Bucer, et il dit, il aimait bien comparer ça, l'écriture, aux édits d'un roi. Il disait que l'Église est comme une ville dont le roi serait parti dans un pays lointain et qu'il dirigerait désormais par des écrits qu'il envoie à cette ville. Et ce serait fou pour cette ville de dire non, nous on veut pas obéir à ces édits, on veut obéir au roi. En fait, ouais. Le roi a choisi de gouverner cette ville par ses édits et pas autrement. Donc, je comprends qu'on est disciple de Jésus, et la meilleure manière d'être disciple de Jésus, c'est de suivre ses enseignements qui sont dans la Bible.
Excellent. Et effectivement, c'est la Bible qui... Enfin, comment est-ce qu'on sait qui est Jésus? Comment est-ce qu'on sait ce qu'il a fait sur cette terre? Comment est-ce qu'on sait ce qu'il a enseigné? C'est au travers de la Bible. Et on n'est pas... Il y a peut-être un mysticisme un peu trop grand dans la foi évangélique aujourd'hui, de rejeter tout ce qui est objectif, j'ai envie de dire, ou tout ce qui est concret, alors que non, on a un récit concret, un texte concret, le texte biblique, qui nous révèle qui est Jésus, qui nous permet d'apprendre qui il est. On n'a pas à chercher à ressentir quelque chose de particulier pour... Enfin, même, c'est tellement flou de comment savoir si nos émotions sont vraies, comment savoir si nos sentiments sont réels. Si on est un peu honnête avec nous-mêmes, on sait que nos sentiments fluctuent et que tout ça change du jour au lendemain, alors qu'on a un texte écrit, objectif, qui nous révèle qui est Jésus. Mais alors, une autre objection qu'on pourrait répondre à ça, Max, ce serait... Maxime, pardon, je me permets un peu d'intimité entre nous. ce serait, mais
cousin.
Ok... De quoi ?
Cousin.
Cousin, c'est ça. Eh, cousin. ce serait de dire, ok, je suis d'accord avec ce que tu dis, les enseignements de Jésus sont rapportés dans la Bible, mais on n'a pas que ça. Et par exemple, si on prend le Nouveau Testament, on a des apôtres qui écrivent, et pas mal d'apôtres, la plupart. Et Jésus lui-même n'a écrit aucun livre. Alors comment considérer ça et comment mettre ça en lien avec ce que Jésus a enseigné? Et surtout, peut-être certains, et je pense qu'on voit ça aujourd'hui, on a tous les deux, je pense, en tête à quoi on fait référence là, mais certains qui voudraient faire un peu de tri dans ce que la Bible enseigne, ce que le Nouveau Testament enseigne, par exemple, entre ce que Paul a enseigné, de retenir juste ce qui vient de Jésus, et d'enlever ce que Paul, lui, de manière un peu humaine, a ajouté, de faire comme un tri, voilà, comme si du sable, on va le faire passer au tamis, là, ou je sais plus comment on appelle ce truc-là, le truc auquel on joue quand on est petit, voilà, on doit faire passer ça au tamis ou à ce truc-là, pour retenir seulement les enseignements de Jésus. Comment est-ce que tu répondrais à ça?
Ouais, et bien tout comme Jésus a choisi de communiquer envers nous par le témoignage écrit qu'est la Bible, il a choisi des hommes et c'est pas quelque chose qui doit nous surprendre. Il l'a fait dès sa vie sur terre, des hommes qui soient ses disciples, qui le suivent et qui soient dépositaires de ses enseignements. Donc c'est ce qu'on appelle des apôtres, c'est simplement des gens, des envoyés de Jésus et qui prennent son message. Pourquoi je dis que ça doit pas nous surprendre? Parce que alors tu me corriges, ça doit être en Jean 14 ou Jean 15. Jésus a annoncé la promesse d'un esprit en parlant à ses apôtres. Il a dit: « Je vous enverrai mon esprit et il vous rappellera mes enseignements. » Il y a des choses que les disciples n'étaient pas encore prêts à comprendre durant la vie du Christ et des enseignements qu'il leur a transmis après sa mort par son esprit. Et donc si on croit Jésus, on doit croire aussi qu'il a choisi des messagers officiels, encore une fois, des représentants, des porte-paroles qu'on appelle ses apôtres. Et donc on ne peut pas opposer les enseignements des apôtres à ceux de Jésus, puisque ils tirent leurs enseignements d'une révélation de Jésus-Christ. Paul l'exprime peut-être le plus clairement, et pour lui c'est peut-être le plus explicite encore, parce qu'il a été appelé à être apôtre après la mort et la résurrection du Christ. Et dans son épître aux Galates, dans les deux premiers chapitres en particulier, il montre comment, alors qu'il persécutait l'Église, Dieu l'a appelé à être apôtre et lui a fait parvenir son message. Et Paul fait remarquer que durant les 14 premières années de sa vie chrétienne, il n'a pas rencontré les apôtres. Il les a rencontrés qu'une seule fois, très courtement, pendant 2 semaines à Jérusalem. Et donc il a tenu son message pendant des années, déjà pendant les 3 premières années seul, puis encore pendant les 11 années qui ont suivi. Il a tenu son message directement du Christ. Et la fois où il les a finalement rencontrés, il raconte ça en Galates 2, ils avaient le même message, ils sont tombés d'accord. Donc à la fois les apôtres qui ont entendu Jésus de leur vie et celui, Paul, qui l'a reçu le message après la mort et la résurrection du Christ, ont un seul message qu'ils disent avoir reçu du Christ. Et dans le cas de Paul, c'est rendu particulièrement flagrant parce que c'était un opposant du christianisme qui du jour au lendemain prêche le Christ avec une profondeur et une sagesse. Qui fait qu'on étudie encore ses écrits 2000 ans plus tard et qu'on les étudiera encore pendant un moment, je pense. Donc, il y a pas lieu d'opposer les apôtres et Jésus, parce que ce sont simplement ses porte-paroles, ce sont ses témoins officiels qu'il a choisis lui-même. Hein, il le dit plusieurs fois: « Je vous ai choisi », en parlant des apôtres.
Et peut-être un bon endroit où atterrir gentiment, ce serait dans 2 Pierre, 2 Pierre 1. Ce verset qui montre que, comme tu le dis, c'est pas au final c'est pas des paroles humaines, mais c'est l'Esprit de Dieu qui a guidé la rédaction de l'Écriture et qui a permis que ce qu'on ait aujourd'hui entre les mains, ça soit précisément ce que Dieu a voulu communiquer aux êtres humains. Et ce passage de 2 Pierre 1 nous dit, 2 Pierre 1, 20 et 21, sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est une affaire d'interprétation personnelle, car ce n'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Ce n'était pas leur volonté qui dictait les choses et qui voilà, a pris l'initiative et qui ils ont écrit un peu ce qui leur passait par la tête avec des erreurs, avec des choses qu'on doit corriger, avec des choses qu'on doit essayer de trier, mais c'est poussé par le Saint-Esprit qu'ils ont parlé de la part de Dieu. Oui, c'est des apôtres et d'autres personnes qui ont écrit de manière humaine, on pourrait dire, avec leur personnalité, avec leurs compétences, mais ultimement, ils étaient poussés par le Saint-Esprit et c'est l'Esprit de Dieu qui a permis à ce qu'on ait aujourd'hui la Bible. Et donc, ça veut dire qu'on a profondément besoin de l'Esprit pour comprendre la parole de Dieu. Et qui est à la fois, je pense que c'est utile de mentionner ça dans cet épisode, à la fois quelque chose de spirituel et quelque chose d'humain quand on veut comprendre la Bible. Quelque chose de spirituel parce que c'est pas juste humain et c'est pas un livre comme les autres. Et on a besoin que l'Esprit œuvre en nous, illumine les yeux de notre cœur pour qu'on comprenne ce que Dieu nous a révélé. Mais il y a aussi quelque chose d'humain dans le sens où c'est un livre, c'est des écrits. On a besoin de pouvoir lire, enfin c'est assez évident de dire ça, mais de connaître l'alphabet pour pouvoir lire la Bible, mais aussi de faire chauffer notre cerveau, de comprendre l'argumentation, de comprendre ce qui est écrit, de ce qui est dit, pour pouvoir l'interpréter de la bonne manière. Et peut-être il y a le danger de tomber dans l'un ou l'autre extrême quand on approche l'écriture, soit de voir ça comme quelque chose de uniquement spirituel, voilà, je dois ressentir, je dois prendre un peu les choses à la légère. Non, en fait, on doit prendre les textes dans leur contexte, mais aussi le danger de prendre ça de manière uniquement académique, un livre un peu stérile. Non, en fait, ça vient de Dieu, et l'Esprit de Dieu en nous nous aide à le comprendre. Je sais pas si tu es d'accord avec ça, Maxime. Si t'es pas
Il y a
d'accord, je te
une
le dis de ce
réflexion qui me
podcast.
vient par rapport à ça et par rapport à ce qu'on a dit plus généralement. C'est que depuis petit, je suis habitué à entendre ce verset où Jésus nous dit que si on le renie devant les hommes, il nous reniera devant le Père quand il viendra et devant les anges. Et en fait, si on est bien attentif à ce passage, il dit, celui qui a honte de moi ou de mes paroles, j'aurai honte de lui. Et peut-être qu'aujourd'hui, on voudrait, justement, comme on l'a dit, dire qu'on suit Jésus, mais qu'on n'est pas tant attaché à ses paroles. Et en fait, Jésus dit que ceux qui ont honte de ses paroles, c'est comme s'ils avaient honte de lui et il aura honte d'eux au dernier jour. On peut pas s'attacher à Jésus, dire qu'on est attaché à Jésus et mépriser ses paroles. Pour Jésus, renier ses paroles, c'est le renier.
Exactement. Merci. Ben, je pense que c'est un excellent endroit où terminer. Sauf si tu avais autre chose à rajouter, mais voilà, de nous encourager. Tu voulais rajouter quelque chose?
Ouais, on peut suggérer peut-être quelques livres.
Ah oui, excellent, ouais. Bah vas-y, je te laisse.
Alors, on avait pensé à Croire Dieu sur parole de Kevin DeYoung, qui aborde justement quatre caractéristiques de l'écriture, qui sont utiles justement pour mieux comprendre le rôle de la Bible dans la vie du chrétien. Et
Il est
puis,
très bien parce qu'il est.
ouais,
Ouais, désolé, je
vas-y.
dis juste un mot là-dessus. Il est vraiment très bien parce qu'il est court, il est accessible, il se lit facilement. C'est bien illustré, donc je vous encourage vraiment à lire. Moi, ça a vraiment fortifié ma confiance que j'avais dans la parole de Dieu, mais vraiment super encourageant.
Croire Dieu sur parole, Kevin DeYoung. Et puis Soif de plus, le livre de Benjamin, qui n'est pas un livre consacré à l'écriture en tant que tel, à la Bible, mais les six premiers chapitres abordent aussi des caractéristiques de l'écriture. Je pense que tu t'es aussi inspiré, ou en tout cas tu as été influencé par Kevin DeYoung, mais par d'autres choses aussi. Tu mentionnes des podcasts, des articles. Donc je vous encourage, ne serait-ce que pour les ressources, mais aussi bien sûr pour ce que Benjamin dit, à consulter le livre.
Excellent, plus sain pour toi Maxime d'avoir je
Voilà.
te donnerai ton petit chèque.
Ok. Du coup, les 5 euros,
Excellent,
c'est
merci
comment?
Maxime. De
On
quoi?
fait comment pour les 5 euros là que tu m'avais promis?
Ouais, c'est ça. Excellent Maxime, merci beaucoup pour ce podcast, toujours une joie de discuter avec toi. En espérant pouvoir se revoir bientôt. En fait, j'ai jamais vu Thomas de mes propres yeux.
Non.
Non, c'est vrai,
Ah
je l'ai
ouais,
jamais vu.
punaise.
Enfin, en photo quoi, en vidéo, il a l'air bien mignon, mais j'aimerais bien quand même faire quelques blagues avec lui et lui apprendre quelques bêtises, ça serait cool.
Très bien.
Donc j'espère qu'on pourra faire ça en décembre. À voir. D'ici là, Maxime, porte-toi bien. Bon courage à toi. Merci beaucoup, les amis, de nous suivre. Merci à la Rébellion de nous accueillir. Et puis à très bientôt.
À bientôt, Dieu voulant.